Visconti Talks. Vous écoutez Visconti Talks, le podcast de dirigeants à dirigeants. Une émission portée et présentée par les partners de Visconti, spécialistes de l'accompagnement de dirigeants par des dirigeants. Qu'est-ce qu'un bon dirigeant? Comment être un leader inspirant et inspiré? Comment transformer sans fracturer? À chaque épisode, un dirigeant nous inspire, partage son expérience et sa vision du métier de dirigeant. Bonne écoute!
Bonjour William.
Bonjour Xavier.
Je suis vraiment ravi de t'accueillir aujourd'hui sur notre chaîne Visconti Talks.
Merci, merci beaucoup de m'accueillir, c'est très gentil.
Nous allons maintenant passer une bonne grosse vingtaine de minutes ensemble.
Yes.
Mais autour de toi, William, s'il te plaît, peux-tu te présenter,
oui.
Dire qui tu es et quelle est ton histoire et surtout entrepreneuriale?
Yes, alors je m'appelle William Heldin, j'ai 37 ans. L'histoire entrepreneuriale commence quand j'ai 16 ans, où je monte un label de musique dans mon quartier à Nanterre. Ça marche bien, je sors un son que beaucoup de monde connaissent. C'est mes premiers sous à 18 ans. Ce son, j'en parle, c'est Disco Beach, c'est Beau la bourgeoisie, parce qu'à l'époque je faisais beaucoup de musique électro et je bossais en radio. Et le directeur d'antenne de Fun Radio avait dit que, à cause du CSA, et donc du quota français qu'on devait mettre de 21% de paroles en français dans les musiques, eh ben, il en manquait en électro. Et donc, du coup, j'ai fait une musique électronique avec des paroles en français, et ça a cartonné. De ça, j'ai rebondi parce que j'aimais deux choses dans la vie. J'aimais la musique et rouler vite en voiture ou en moto. Et donc, du coup, j'en avais marre de me faire choper par les radars. Et j'ai monté un petit magasin suite à une arrestation et un retrait de permis un jour après l'obtention de mon permis à 18 ans, que, justement, bah, ce magasin vendait des avertisseurs de radar. Je ne sais pas si tu te rappelles, les tout premiers, c'était Inforad, alerte GPS. Donc, c'était des trucs que tu remettais à jour sur ton ordinateur qui bipaient partout où les endroits étaient possiblement équipés de radars. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai rencontré Fabien Pierlot, une des plus belles rencontres de ma vie, parce que c'est l'inventeur de Coyote. Je me suis associé à lui. Au début, j'ai développé ses boutiques. Et après, je suis remonté au siège. Et donc, du coup, j'étais son bras droit. J'étais actionnaire aussi dans l'entreprise. Ça a cartonné. On a été interdit en 2011. Et quand on a été interdit, on a dû afficher la vitesse de limitation de la route sur les Coyotes. Et il n'y a aucune base de données qui existe. Du coup, je me suis intéressé à la technologie, tu sais, de la vision par ordinateur. Et cette technologie, elle reconnaissait les panneaux grâce à 500 images qui avaient été faites avant, puis apprises à un algorithme. Et ensuite, cet algo, il était mis derrière une caméra dans un Coyote et ça reconnaissait tout à 95%. Donc je me suis dit, mais c'est magique cette techno en fait. Quand l'humanité agit en majorité grâce à ses yeux pour construire son futur et son économie, mais à côté de ça, on voit bien qu'on est tous en flat intelligence, c'est-à-dire qu'on ne développe pas des intelligences de manière exponentielle. Cependant, l'information se multiplie de manière exponentielle et nous, on ne peut pas mettre des humains partout pour contrôler ou pour regarder. Donc je me suis dit, alors la caméra, elle devient un relais de l'information à valeur. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai découvert cette technologie de vision par ordinateur. Et c'est comme ça que j'ai regardé qu'est-ce que je pouvais faire avec Coyote, avec cette vision par ordinateur. Et il n'y avait pas grand-chose à faire. On était en cours de revente de Coyote. Du coup, j'ai revendu et j'ai lancé 22, qui est aujourd'hui un des leaders européens dans la vision par ordinateur, où on met nos algorithmes derrière des caméras, au début pour pas mal de cas d'usage de sécurité-sûreté. Mais maintenant, on s'éclate sur l'excellence opérationnelle. On s'éclate sur tout ce qui est plateforme logistique, à traquer des colis, des objets à valeur, à étudier les expériences clients, etc. Et à rajouter finalement de la valeur là où l'humain qui gère son business n'a pas le temps de regarder.
Justement, tu as déjà anticipé quelle était ma question. C'est aujourd'hui 22 que tu as créé il y a maintenant 7 ans, je crois.
Oui, ça passe trop vite.
quel est réellement son métier, ses ambitions à l'âge de l'intelligence artificielle?
Alors, on est un pure player intelligence artificielle. On est une des 6 boîtes sélectionnées par l'État dans France 2030. Donc, on est fortement poussé en ce moment. On est aujourd'hui les leaders, comme je disais, européens en vision par ordinateur. Donc, c'est la capacité à créer des algorithmes qui vont analyser en temps réel ou a posteriori des flux vidéo et pouvoir justement détecter des choses. Donc, on est une boîte de 80 personnes. On a levé 22 millions d'euros là, il y a quelques mois. On est à la conquête du monde parce qu'on distribue en France, en Espagne, au LATAM et aux États-Unis. Et les cas d'usage précis qu'on fait, dans la sécurité, on fait tout ce qui est intrusion, détection de bagarres, détection de tout un tas de choses. Mais ça, c'est pour nos contrats un peu secret ou un peu, on va dire, avec les polices d'Europe. Et de l'autre côté, en fait, on fonce sur cette techno parce qu'il faut qu'elle arrête de faire peur. Elle va servir dans tout un tas de choses. Et donc, tu vois, nos clients sont des fast-food où on dit en temps réel s'il y a le bon nombre de burgers sur le plateau. Comme ça, il y a le client est toujours content et satisfait. On bosse aussi pas mal pour des stations-service. On bosse aussi pas mal pour des magasins. On est capable de dire que là, la lunette numéro 3, si elle est touchée et essayée plus de 3 fois, alors elle va être 20% de plus vendue à la fin du mois. En fait, on est capable d'aller très très loin et un peu comme un Google Analytics analyse ton website. Nous, on sait analyser ton magasin. Et s'il y a une page ou un produit sur ton Google Analytics qui ne fonctionne pas bien ou fonctionne mal, eh ben, tu le modifies grâce à ces outils. Nous, on fait la même chose dans la vraie vie. Donc, on observe le réel et on permet d'avoir beaucoup plus d'insight du réel.
En t'écoutant, l'intelligence artificielle me semble extrêmement simple.
Ah, ben c'est parce que je le traduis peut-être simplement, parce qu'on me l'a traduit simplement. Je suis entouré de docteurs en permanence et d'ingénieurs. C'est très dur, en fait. Et je trouve que la clé... en tant que CEO d'une boîte regardée, c'est de savoir l'expliquer. Et en fait, c'est très facile pour moi et pour toi aussi, si tu étais au cœur du sujet avec moi tous les jours, parce qu'en fait, ça imite la vision de l'humain. Et en fait, toutes nos manières de voir, de comprendre ce qu'on voit, de suivre ce qu'on voit et de remonter une alerte en cas de problème, en fait, c'est la même chose. Tout est dupliqué dans le logiciel. Donc toi, tu regardes un biberon pour la première fois et tu le bois. Bah, tu sauras à vie que c'est quelque chose de bien, d'important et que tu en veux tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. Une IA, c'est des petits carrés qu'on appelle les pixels, des couleurs, des formes. Et en fait, plus tu lui montreras de biberons et d'images de biberons dans des lieux différents, des tailles différentes, des couleurs différentes, des luminosités différentes, donc tout ce que toi, tu vas savoir facilement interpréter en tant qu'adaptation, parce que toi, tu as une vision du monde au général, l'IA non, eh ben, elle, il faut lui donner 500, 1000, 1500, 5000 images de biberon. Et ensuite, quand tu mets l'algorithme qui a appris derrière une caméra, à chaque fois que ça ressemble à une des images que ça a appris, alors c'est un biberon. Tu vois un peu le truc? Et donc, du coup, simple à comprendre, je pense. Après, les cas d'usage sont infinis, c'est ça qui est sexy.
C'est merveilleux. Alors, quelles sont les ambitions de 22 à l'heure à laquelle nous parlons?
Alors là, il faut qu'on passe les 10 millions d'euros d'ARR avant la fin de l'année. J'aimerais bien, avant mes 40 ans, passer les 100 millions. Du coup, ça veut dire qu'il me reste 3 ans et demi. C'est chaud. Et une de mes grandes ambitions, c'est de valoriser 22 au-delà du milliard, voire même un jour avant mon retrait de cette vie, atteindre le milliard de chiffre d'affaires. Dans ma boîte précédente, on était à 150 millions. Je pense que j'en suis capable et j'ai envie.
Alors ça, c'est un système extrêmement ambitieux qui, bien évidemment, nous plaît énormément. Si tu veux bien, ma question qui va suivre, c'est on va s'extraire un petit peu de 22 pour monter au niveau de l'intelligence artificielle au niveau global. Mmh. Et si on pouvait, d'un point de vue, pourquoi pas même philosophique, quelle est toi ton approche et ta pensée, ta vision sur tout ce qui se fait aujourd'hui et peut-être demain sur l'intelligence artificielle?
Très rapidement, parce que c'est long d'expliquer tout ça. Je pense que l'humain, il faut qu'il accepte que sa progression n'est pas exponentielle. Il faut qu'il accepte de se faire aider. Je pense par contre qu'il doit rester le décisionnaire. Donc ça doit être des outils. On doit s'entourer d'outils. Le bagage d'hier, c'était un couteau, c'était un marteau et c'était un clou. Le bagage d'aujourd'hui, c'est un smartphone. Le bagage de demain, c'est un outil digital qui te permet d'analyser ce qui t'entoure, de prévoir ce qui va t'arriver. Et donc, du coup, je pense que le sac à dos du numérique qu'on va avoir dans les 30 prochaines années et qui va se construire seront les meilleurs outils qu'on a jamais eu pour augmenter notre intelligence. C'est quoi augmenter notre intelligence? C'est avoir accès à l'information rapidement et souvent très ciblée, c'est-à-dire qu'elle connaisse notre contexte. Tu vas demander à une IA aujourd'hui quelque chose de particulier, ça va te donner une réponse généraliste. Demain, j'imagine que ça s'adaptera aux personnes et ça donnera quelque chose qui est dans l'air de ton temps à toi et qui est dans tes objectifs. Donc en fait, je pense que ma vision philosophique de l'IA, elle est simple. C'est premièrement, ce n'est qu'un outil. Et je vous assure, hein, il est bête cet outil. Même si on a l'impression que ça rend des choses pas possibles, c'est ni plus ni moins qu'une photo à un endroit et à un moment de certaines informations recrachées avec un tout petit peu d'intelligence, de logique et de décision. Après, sur le point de vue vraiment philosophique, je pense que c'est utile à se surpasser parce qu'aujourd'hui, on arrive dans un système où on commence à être dans les endroits développés, trop à l'aise. On n'a plus faim dans les endroits développés et là où on a créé ces genres de technologies. Donc, je pense que pour donner un nouvel élan au développement de l'humanité, il va falloir qu'on s'entoure de choses qui nous poussent et qui nous soufflent dans les ailes. Et je pense, et j'arrive à voir sur grosso modo les 100 prochaines années, je pense que le travail de l'IA ces 100 prochaines années, c'est de s'intégrer à notre monde réel comme il est aujourd'hui, sans trop le dénaturer. Les 100 prochaines années, on parle de 3 générations, et en principe, un gros changement technologique après une arrivée aussi gargantuesque, finalement, ça prendra ce temps-là à s'implémenter un peu partout. Après, bien sûr qu'il y a plein de gens qui vont dire « Mais non, William, dans 3 ans, ça révolutionne tout. » Ça fait 8 ans que j'ai créé 22. Le discours que je te tiens aujourd'hui, je pouvais te le tenir il y a 10 ans. Et ça n'a pas des masses évolué. Donc, je suis assez sûr de moi.
Une question très personnelle de dirigeant. En tant que chef d'entreprise, fondateur de 22, depuis maintenant, comme tu le dis, 8 ans, qui a passé tous les caps à aujourd'hui d'un chef d'entreprise, des levées de fonds, des recrutements, des développements, comme tu dis, un déploiement international aujourd'hui. Et quel est pour toi, en tant que dirigeant, ton enjeu principal à l'heure à laquelle nous parlons?
Ne pas être un goulot d'étranglement. C'est-à-dire lâcher petit à petit, en déléguant, en donnant la responsabilité aux autres et ne pas être au centre de tous les sujets. Parce que quand tu es un fondateur d'entreprise avec du leadership, tu es facilement sous les projecteurs. Et donc, du coup, l'image de l'entreprise, c'est un peu toi. Mais sauf qu'au bout d'un moment, tu vois, tu ne peux pas courir à droite, à gauche et un peu partout. Donc, premièrement, le truc le plus important pour moi, c'est que le matelas des valeurs soit partagé et soit appliqué. Ensuite, par-dessus, il y a la méthodologie. Donc, au-dessus des valeurs, je veux que tout le monde exécute avec une certaine philosophie, une certaine méthodologie. Et ensuite, c'est dur ce que je vais dire, mais je cultive le fait que tout le monde n'est pas vissé à son siège. Tous les 2 ou 3 ans, je pense qu'il faut même du turnover sur certains postes, parce que ça demande d'évoluer, et c'est difficile de suivre le TGV quand tu restes à la même position. Donc, du coup, c'est une entreprise qui est en fort développement et humainement parlant, c'est impossible. Enfin, tu dois aider tout le monde au maximum pour qu'on passe ensemble les tempêtes, mais tu dois aussi dire à tout le monde que 22, ce n'est pas toute leur vie et qu'à un moment, il faudra laisser son siège, moi le premier. Après, par-dessus ça, exécuter un produit avec qualité et donc avec certains indicateurs de qualité à l'intérieur, je regarde beaucoup ça, parce que le côté couche humaine est plus important presque que la technique pour moi. Et ensuite, évidemment, ne jamais cesser d'avoir une ambition hors norme et une vision lointaine. Voilà, c'est vraiment les 3 choses, tu vois. Pilier d'ADN fort, manière de faire et vitesse pour faire, et on ne reste pas planqué. Et à côté de ça, ambition longue.
Alors, comment t'organises-tu, toi, personnellement?
C'est le bon sujet, là, est ensemble.
Pour implémenter tous tes enjeux, toutes tes ambitions et tous tes défis?
Alors, je ne peux pas implémenter toutes mes ambitions et tous mes défis. J'en garde pour moi parce qu'il y en a certains qui, en courroie de transmission, ne passent pas ou que j'ai encore du mal à expliquer. Comment je fais? Je discute beaucoup en dehors de rendez-vous formels ou avec des clients. Donc, j'aime bien inviter au resto. J'aime bien, de temps en temps, faire des déplacements. Tu passes des soirées avec les équipes. Tu passes sur les événements aussi. J'aime bien passer les valeurs sur les événements. Après, je fais beaucoup de Q&A. Toutes les 2-3 semaines, on fait un Q&A d'1 heure dans la boîte. Donc, du coup, on échange beaucoup. Après, je suis hyper accessible. Toujours mon bureau ouvert où j'ai aussi un bureau en open space. Et après, pour passer tout ça, tu prends des gens qui t'entourent dans les mêmes valeurs, en fait. Si tu ne veux pas dépenser d'énergie à tout processiser, à tout théoriser, tu recrutes des gens qui t'entourent, qui embrassent tes valeurs. Et pour le coup, ça va 10 fois plus vite.
William, on parle beaucoup en ce moment d'intelligence artificielle.
Oui.
Je pense que tu le sais très bien.
Ah oui.
Tout le monde, quand je dis tout le monde en parle.
Ouais.
Tout à l'heure dans le taxi, pour arriver, on n'a pas d'intelligence artificielle. Voilà. Est-ce que telle application permet d'aller plus vite dans Paris en taxi, etc.
Ah oui, c'est un sujet d'actualité.
C'est un vrai sujet, surtout quand il faut passer certains endroits.
Oui.
Mais toi, quelle est vraiment ta vision par rapport à ce qu'il se passe aujourd'hui et ce qu'il se dit par rapport à l'intelligence artificielle?
L'intelligence artificielle, c'est un mot générique qui réunit plein de techniques logicielles pour pouvoir essayer de faire des choses que le logiciel simple ne pouvait pas faire jusqu'à présent. Donc, avec beaucoup plus d'informations sur notre manière de voir le monde. Donc, ça peut nous aider. Il y a plusieurs IA. J'aime bien réunir ça en quatre catégories. Les premières IA qu'on a connues sont le Big Data. Il y a 15 ans, 20 ans, on commençait à parler de Data Lake, de masse de données, et de ne pas sortir ça en brut sur Excel, mais d'avoir des choses un peu plus palpables. D'accord ? Donc ça s'appelle le Big Data, on connaît. Deuxième grosse technologie, le NLP, le Natural Language Processing, qui a lui enclenché avec tout ce qui est LLM, donc Large Language Model, qui sont les souches depuis 2018 où Google a sorti ses premiers algos, qui sont les souches de OpenAI et ChatGPT et tout ce que tu entends en ce moment en GenAI, qui est en train d'ailleurs, comme la superbe boîte française Mistral, valoriser 2 milliards en 6 mois. Enfin, c'est des modèles dingues qui apprennent le monde entier. Donc, tu te rappelles nos encyclopédies quand on était jeunes avec tous les tomes et tout ça. Ben là, c'est des algos qui aspirent 100% des mots et des paragraphes. Et du coup, toi, au lieu d'aller choper ton tome 3 d'encyclopédie numéro 8 sur les avions, ben là, tu demandes et ça te ressort de manière automatique grâce à la puissance de calcul accessible maintenant, Nvidia. Les valorisations qui explosent au Nasdaq en ce moment, c'est ça. Hein, c'est le bitume de l'IA. Et donc, du coup, ces LLM avec OpenAI sont en train d'exploser, mais paradoxalement, il y a une forte barrière à l'entrée parce que tu dois apprendre à des très gros réseaux sur des machines qui coûtent des millions, alors que derrière, on n'a pas encore trouvé les modèles, comment ça va s'intégrer chez nous. Donc, il y a peu de chiffre d'affaires autour de ces technologies-là, bien que les valorisations soient en dizaines de milliards. Parce qu'on sait que c'est une guerre qui va durer longtemps. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la computer vision, donc la capacité à l'ordinateur de reconnaître des images ou des flux vidéo. Ce que je fais. Et ensuite, pour finir, il y a la robotique qui finalement rajoute un aspect physique à tous ces capteurs. Donc ça, ce sont pour moi les quatre grosses catégories. C'est plus la mode du big data, c'est fini, on n'en parle plus. Bien qu'il y ait encore quand même pas mal de sujets, et je pense des évolutions sous quelques années. C'est de plus en plus la robotique. Je ne sais pas si tu l'entends, là, mais tous les fonds d'investissement sont en train d'en parler. Là, l'IA et la robotique, c'est le sujet de tout à l'heure. Donc j'ai l'impression que ce sera la prochaine hype. C'est la computer vision dans 3 ans, parce qu'aujourd'hui, c'est la technologie la plus compliquée. C'est-à-dire qu'il faut fabriquer une Formule 1 et on préfère faire un autobus, un LLM, qui connaît plein de choses, qu'une Formule 1 qui est très précise et très aérodynamique. Donc du coup, la computer vision va avoir ses heures de gloire, je pense, dans 2, 3, 4, 5 ans. Et là, c'est le LLM et on va voir comment on arrive à... Et la Gen AI, donc cette créativité grâce à la connaissance. Et donc du coup, ce que je pense, c'est que déjà, je vous ai expliqué les 4 gros piliers. Ce que je pense, c'est que chacun a sa mode. Pourquoi ? Parce que c'est dingue les changements que ça emporte, mais personne ne comprend comment ça se passe. Donc le moment où quelqu'un arrive à traduire un applicatif compréhensible de beaucoup de monde, alors c'est possible que ça se hype, tu vois. Et donc du coup, nous, on reproche un peu aux fonds d'investissement et au grand public, ok, super les gars, vous découvrez OpenAI, ChatGPT et le GenAI, on en parle depuis 5-7 ans. Oui, ça coûte très cher à faire. Vous êtes tous autour à essayer de surfinancer les trucs, mais vous ne savez pas ce que ça va donner après. Investissez dans des technos qui s'implémentent dans les industries comme nous, la computer vision ou la robotique, qui sont plus humbles et qui grimpent petit à petit avec les connaissances métiers. Mais faites attention aux phénomènes de mode. Donc en fait, l'écosystème de l'IA est en train de pousser. Je pense aussi que c'est bien et ça sert à tout le monde que tout le monde en parle. Ça évangélise. Et... je pense aussi que la génération d'après et celle encore d'après l'aura complètement intégrée. Donc, allez, on pousse fort encore 10-15 ans, mais après, c'est une normalité. Voilà ce que j'en pense. Par contre, ça va changer le monde parce que ça va faire beaucoup de choses qu'on faisait nous. Et donc, il va falloir se poser des questions sur ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on veut faire demain et qu'est-ce qu'on veut de cette humanité. Donc, le mot un peu pour conclure, c'est ça, c'est regarder cette vague logicielle qui arrive et qui fait 60% de ce qu'on sait faire sur nos propres métiers. Prenez-la à votre avantage, twistez le savoir humain et c'est pour ça que Visconti, et merci de me donner ça, mais vous avez de belles années devant vous parce que les prochains gros sujets vont être tout ce qui est émotionnel et tout ce qui est finalement de se servir de cette techno pour être encore un meilleur humain. Donc longue vie à l'humanité, moi je pense qu'elle va vraiment dominer. Et faisons de ces logiciels nos outils.
William, merci beaucoup, vraiment beaucoup pour ce témoignage.
Avec plaisir. Et puis, tu m'aides beaucoup quand même dans tout ça. Parce qu'il faut en parler. Xavier est mon coach depuis pas mal de temps. Et donc, du coup, aujourd'hui, Enfin, tu m'aides beaucoup à mettre en place la courroie de transmission entre ma tête et le reste du monde. Et donc, du coup, c'est important aussi, j'applique les méthodes qu'on partage ensemble, bien qu'il y en a qui soient difficiles. Hein, on se parle de préparation de board, de préparation de tout ça. Hein, et de, du coup, comme je disais avant de venir ici à mes équipes, je vais faire un podcast avec mon coach. Pourquoi ? Il t'amène quoi ? Bah, il m'amène que je me sens un peu seul. Et quand je suis avec lui, je le suis beaucoup moins. Et donc, du coup, c'est important de le souligner que t'aides quand même beaucoup dans cette fonctionnalité.
J'allais te demander le mot de la fin, mais tu viens de le donner. Merci William.
Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'est gentil.
Vous venez d'écouter Visconti Talks, le podcast pour comprendre et apprendre des autres dirigeants. Retrouvez-le en intégralité sur le site internet visconti.partners. Vous y retrouverez aussi l'ensemble des nouveautés de Visconti Partners. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Visconti Talks. Visconti Partners, Leaders Challenging Leaders.